Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite.
Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce Élite et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Jean-Sébastien Crevier, vice-président vente et marketing chez WeCook. Pour les gens qui ne connaîtraient pas l'entreprise, WeCook est une organisation de prêt-à-manger étant en affaires depuis avril 2012. L'entreprise s'est positionnée à travers le temps comme un des joueurs les plus prolifiques dans sa catégorie et continue même de croître année après année. Jean-Sébastien Crevier, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite aujourd'hui.
Merci Antoine.
Et Jean-Sébastien, pour donner peut-être un petit peu de contexte à l'audience, est-ce que tu pourrais nous dire essentiellement qu'est-ce que fait un vice-président vente et marketing chez WeCook au quotidien? Quels sont les mandats que tu as à faire avec l'entreprise?
Sure. Ben en fait, c'est un titre, on va se le dire, mais en gros, chez WeCook, j'ai tout ce qui est marketing, performance et branding. J'ai aussi sous moi et mes équipes, bien sûr, le développement des plateformes. Front-end, back-end, tout ce qui est BI et quelques petites autres choses aussi.
Donc, essentiellement, marketing numérique, mais également tout ce qui va se dérouler sur le site Internet au niveau du taux de conversion, l'amélioration, la vitesse également, la plateforme en ligne, ça touche tes équipes, ça touche ton travail au quotidien, littéralement.
Exact. En fait, j'ai LFBI, j'ai une équipe de performance qui gère aussi UX/UI, équipe de brand qu'on vient de rebâtir. Après ça, aussi, on gère qu'est-ce qui est paiement sous moi, ainsi que l'équipe loyauté en banque.
Intéressant. Bon, donc, ça peut donner un peu de contexte à notre audience aujourd'hui que Jean-Sébastien en couvre large dans l'entreprise. Donc, il va être capable de nous parler de plusieurs sujets aujourd'hui. Donc, Jean-Sébastien, je faisais mes petites recherches. Tu es chez WeCook depuis 2019 maintenant. Tu as commencé comme gestionnaire en marketing numérique. On parlait juste avant le podcast que tu es arrivé au moment vraiment qu'ils avaient besoin d'un leader au niveau de tout ce qui est marketing, mise en marché de l'organisation. Donc, tu as toujours vu depuis le départ dans l'entreprise chez WeCook les initiatives marketing de très près. Je serais curieux qu'on revienne à 2019. Qu'est-ce qui a vraiment mis peut-être WeCook sur la map à ce moment-là? Quel était ton diagnostic de la situation pour bien mettre en marche tes premières initiatives? Et par la suite, tu pourrais nous parler des résultats à ce moment-là.
Oui, si je peux me permettre, dans le fond, un step back, les fondateurs de WeCook, Étienne et Jonathan, qui ont créé l'entreprise en 2012, eux, leur approche, c'est des gens excessivement intelligents, très business-driven, chanceux d'avoir travaillé avec eux. Leur approche, c'était... OK, on va développer des procédés, on va développer un produit, puis on va vraiment s'assurer d'avoir quelque chose d'optimal avant de mettre le pied au plancher. Donc, de 2012 environ à 2018, c'est là qu'ils ont travaillé fort, qu'ils ont maximisé le produit. Il y avait une croissance, on doublait les ventes à peu près à chaque année de façon plus organique. 2018, c'est là qu'ils ont eu la décision à prendre. Bon, est-ce qu'on vend? Où on lève l'argent puis on se casse. Ils ont décidé d'aller de l'autre côté. Du même coup, on avait une usine à Saint-Hyacinthe qu'on a encore, mais une décision qui était prise de bâtir une nouvelle usine à Dorval. Et ils ont fait deux key hires, un VP des opérations et moi comme premier employé marketing. Donc, ça donne, j'arrive le 19 août 2019 avec le mandat principal de croître l'entreprise, mais aussi avec une vision de transaction dans 3-5 ans. Ce que ça implique, ça, c'est premièrement développer une nouvelle plateforme parce que le site historique n'était pas optimisé pour nos besoins. On passait aussi de rebrander l'entreprise. On est parti, nous aussi, on fait plus à WeCook. On est parti d'un modèle transactionnel à un modèle d'abonnement. Premier mandat. Ça peut surprendre, mais avant même de faire une campagne marketing, avant même de penser au contenu du site, établir la source de vérité. L'idée, là, c'était de s'assurer qu'on bâtit avec une vision qui va faire du sens au niveau qu'on doit être dans 4-5 ans. Qu'est-ce que ça a fait, ça? Puis on l'a vu après ça, même avec la transaction qu'on a eu avec Claridge. La plupart des entreprises comme nous vont avoir fait un write-off, leur donner une fois ou deux dans les cinq premières années. On n'a pas perdu, on n'a absolument rien perdu, puis ça va être bien catégorisé. Oui, on n'utilisait pas absolument tout jour un, mais on savait qu'on avait besoin de le collecter et bien le collecter pour le futur, quand on va avoir les équipes et le bandwidth pour gérer ça.
J'aimerais élaborer un petit peu ici parce que je pense que c'est totalement fascinant. Tu parles jour un, source de vérité. Source de vérité peut être employée pour plusieurs aspects. On peut avoir une source de vérité absolue pour nos initiatives publicitaires où est-ce qu'on veut savoir exactement d'où la transaction provient, quel est le parcours client. On peut également avoir une source de vérité à savoir quelles sont les différentes pages que notre client va visiter sur notre site Internet avant de passer à l'achat. Et également, on peut bien comprendre combien ça prend de temps en moyenne à notre client de faire une transaction. Parle-nous un petit peu de toi et de tes équipes. Quelle définition vous allez donner à cette fameuse source de vérité? Qu'est-ce que vous avez mis en place le jour 1 pour qu'on soit capable de bien situer notre audience? Parce que je pense que c'est un des points ici qui a fait en sorte que vous aviez autant de succès à travers les années.
Il y a quelques sources de vérité standards dans l'industrie. Tu peux utiliser quelque chose à l'interne sous forme de code promo. Tu peux utiliser du second party, donc les Google Analytics de ce monde, ton CRM et tout. Ou sinon, quelque chose de très custom. Nous, on track tout, mais on a fait la ligne dans le sable que c'est nos utilisations de coupon code.
Ah, OK.
De cette manière-là, on track le tout, mais on est propriétaire de la donnée. Et aussi, on a une vision 360 de tout notre marketing mix, l'acquisition de clients, nos cohortes et tout.
Donc, essentiellement, des coupon codes qui vont être faits. Et ça, ça a été bâti le jour 1. Est-ce que théoriquement, ou peut-être même dans le pratico-pratique au quotidien, des codes promo, il va y en avoir littéralement des différents d'une plateforme à l'autre, ou ça va travailler peut-être un petit peu plus par saisonnalité, tout canal confondu? Comment vous avez mis ça en place?
Aussi, quand je dis code promo, je suis pratique, ça veut pas dire nécessairement qu'il y a une offre avec, mais sinon, ça pourrait être aussi catégorisé des campaign code.
Donc, c'est ça. Juste pour être certain, coupon code, code d'une offre spécifique, mais qui n'est pas nécessairement un rabais, comme tu l'as mentionné. Comment vous les avez structurés? Est-ce qu'on structure ça par plateforme publicitaire, par saisonnalité? Comment ça a été mis en place, tout ça?
Premièrement, on a une liste pour avoir du temps. Si on inclut les codes à utilisation unique, je dois en avoir quelques millions. Mais on a aussi créé une liste de catégories. Ça, je ne peux pas rentrer dans les détails toutes les catégories, mais si on a une liste de catégories, c'est pas basé sur les saisons, mais vraiment basé sur les canaux.
Sur les canaux publicitaires. Donc, essentiellement, chaque canal publicitaire va avoir un petit peu sa catégorie de coupons attribués pour qu'on soit capable de bien savoir d'où provient le client. Et ça, corrige-moi si je me trompe, Jean-Sébastien, mais ça doit être autant au niveau organique qu'au niveau payant. Ou même au niveau des influenceurs.
Autant, en fait, tu peux pas faire une transaction sur notre site autant comme nouveau client que client existant sans que t'aies un campaign code attribué à cette transaction-là.
Donc, vous, de votre côté, vous êtes capable de tout calculer quasiment en temps réel, le nombre de coupons de code et par la suite de refaire une attribution à ce niveau-là. Puis, excuse-moi d'élaborer sur ce point-là parce que je le trouve donc fascinant. Avec un peu de recul, cette approche-là, à quel point les résultats que vous avez été capable de collecter, à quel point les résultats droite étaient totalement différents des résultats que vous voyez à gauche, gauche étant les différents canaux publicitaires qui vous disent « Jean-Sébastien, Facebook t'a donné tant d'achats ici, mais finalement, toi, tu vois d'autres données de l'autre côté. » Est-ce qu'il y a une disparité importante qui s'est faite à travers les années, assez importante pour se dire « c'était important qu'on mette ça en place » ou finalement, c'était pas tellement loin de ce que les canaux publicitaires vous disaient?
Ouais, c'est une bonne question. Je crois que si tu veux vraiment performer dans l'industrie, tu peux pas te permettre d'être surpris trop souvent. Tu sais, souvent, tu utilises ces façons de tracker là pour double vérifier tes hypothèses. Puis de temps en temps, tu vas apprendre quelque chose mais généralement, tu vas plus te faire confirmer quelque chose. Si là, je présume que qu'est-ce que tu parles, c'est, on va dire, des Google tracking de Meta, on va dire les clics 7 jours, impressions de journée. Oui, il y a des différences, mais les différences sont assez linéaires avec qu'est-ce qu'on track de notre côté. Nous aussi, faut pas oublier, on a bâti notre le cross-device tracking à l'interne via notre CRM. Donc, si tu viens avec un campaign code, on le passe dans ton profil client. Et après ça, basé sur ton IP, ton device ID et tout, et ton listing va être basé sur le courriel. Si tu n'as pas ton courriel, mais que tu reviens par la suite avec les mêmes variables, on va centraliser ton profil. Donc, de cette manière-là, on a moins de disparités versus on dirait last click dans Google Analytics.
Bien sûr. Donc, au final, ce que tu vois sur tes différentes plateformes publicitaires est pas tellement différent de ce que tu vas avoir dans ta base de données interne. Donc, ça donne confiance à tes équipes en achat média de dire, quand vous voyez une publicité gagnante qui respecte notre CPA cible, qui respecte notre structure économique, on peut accélérer en sachant que c'est pas tellement loin de la vérité ici. Là.
Absolument. Là où ça fait toute une différence d'être capable d'attribuer depuis le jour 1 tes clients par tes canaux et quand au niveau de granularité que tu veux, c'est que après ça, tu as un exemple. Nous, on a fait ça jour 1, mais après un an et demi, deux ans qu'on avait beaucoup de données, c'est là qu'on a commencé à creuser, créer des cohorts basés d'acquisition par canaux et de valeur dans le temps. Les mêmes capacités de win-back et tout. Ça fait toute la différence, surtout dans le food tech où les marges sont pas super élevées. Souvent, tu as des niveaux de churn relativement hauts et des CAC qui augmentent graduellement. Donc, comment est-ce que tu peux maximiser? Les quelques points de base, c'est ça qui fait la différence entre être EBITDA positif ou juste top sales sexy, on va dire.
Et on s'entend, dans le marché dans lequel on est aujourd'hui, les choses changent tellement rapidement qu'on se doit d'être capable de maîtriser les deux.
Absolument.
OK, donc on est capable de comprendre un petit peu ici la dynamique qui s'installe. C'est assez intéressant de bâtir dès jour 1 les sources de vérité pour qu'on soit capable par la suite d'être un petit peu plus agressif au niveau publicitaire. Et là, un an après ton arrivée s'installe, soyons honnêtes, même pas un an, 6-7 mois après ton arrivée, s'installe une tempête parfaite pour votre industrie. Je parle ici, bien entendu, de la COVID-19. Vous faites partie des entreprises, on pourrait dire, chanceuses, qui ont été capables de bénéficier pendant la pandémie d'une effervescence au niveau de vos ventes, c'est-à-dire que, bon, les gens sont chez eux, on veut se faire livrer de la nourriture, les gens achètent en ligne, on est dans un endroit intéressant. Ceci étant dit, il faut trouver une manière de capitaliser puis d'aller chercher un maximum de croissance tout de même à ce moment-là. Et on se rappelle un petit peu pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui en 2020-2021, les taux d'intérêt sont à zéro, on réinjecte de l'argent dans l'économie au niveau du gouvernement, donc il y a un petit peu plus d'argent dans l'économie qu'il y en a au mois de janvier 2024. Donc, environnement très différent. Comment à ce moment-là, Jean-Sébastien, toi et ton équipe, vous avez abordé la situation pour, j'imagine, et corrige-moi si je me trompe, aller chercher, avoir une vision en tête, aller chercher à ce moment-là le plus de parts de marché possible?
C'est une bonne question. Puis l'industrie, en général, on focusé sur aller chercher le plus de parts de marché. Nous, on a focusé sur garder le cap. Puis oui, on a mis à jour nos objectifs, la capacité de croissance et tout. Mais la vision, c'était, on va sortir de la pandémie un jour. Puis si on est parti dans tous les sens, qu'on a bougé notre modèle d'affaires puis que 10% de nos revenus, c'était vendre du Purel ou des ballons de plage, c'est peut-être pas structurant. Ou si on faisait juste lancer de l'argent dans n'importe quoi comme marketing mix parce que ça paye à ce moment-là, ben c'était pas nécessairement qu'est-ce qu'on voulait faire. Premièrement, faut pas oublier, nous, on n'aurait pas préparé comparativement au reste du food tech. Nous, faut les faire, les repas. Les repas qui sont faits aujourd'hui, ils ont été faits aujourd'hui ou hier. Il y avait des limites à la croissance semaine sur semaine. On ne pouvait pas vraiment aller en haut de 10 %. Donc, oui, la pandémie, après, nous, jour 1, la pandémie, c'était pas parfait parce qu'on avait 30 % de nos ventes au retail dans les gyms qu'on a perdu. Yes! Mais on était capable, via le numérique, de tomber 100 % en ligne, en D2C, de récupérer ça rapidement. Et après ça, c'était de croître sans croître rapidement, mais sans dépasser la capacité aussi de production et le reste de l'entreprise pour pas aliéner la clientèle. Donc, on a trouvé notre threshold. Puis Étienne, cofondateur, il y a une phrase qui dit souvent, c'est « keep the main thing the main thing ». C'est ça qu'on a fait. Puis malgré le fait qu'il y avait de l'argent partout sur le marché, on a perso, moi, le marketing mix, je le voyais comme si c'était mon argent personnel. Puis comment est-ce qu'on le maximise? Mais aussi, comment est-ce qu'on établit nos connaissances là pour post-pandémie quand que ça va être plus difficile? Ça a été l'approche. Mais oui, on faisait 2020-2021, on doublait l'entrée, on doublait les ventes après 4 mois.
C'est pour dire. Mais dans un contexte, et vous l'avez fait d'une manière à ce que ça reste, et corrige-moi si je me trompe, profitable.
On a été vraiment EBITDA conscious autant durant la pandémie, même si le marché en général à ce moment-là, écoute, 2020, certains investisseurs, c'était EBITDA positif, ne voyaient pas ça comme un bon œil parce que tu ne coûtais pas assez. Le monde a changé maintenant.
Le monde a très changé. Et bon, là, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce qu'avec cette approche-là, bien entendu, sur papier, ça vous met dans un environnement plus intéressant. La sortie de la COVID, et là, on l'a vu, il y a plusieurs articles, il y a plusieurs nouvelles qui sont sorties récemment, comme quoi votre catégorie, c'est pas tellement facile au moment où on se parle. Plusieurs joueurs dans le prêt-à-manger ou prêt-à-cuisiner même ont de la misère à, bien entendu, avoir les mêmes chiffres qu'ils pouvaient avoir avant la pandémie. Mais vous, de ce que je comprends, on avait structuré la business pour qu'elle a sorti en soi dans un état intéressant. Est-ce que ce fut le cas? Est-ce que vous avez été capable de faire une bonne sortie de la pandémie? Peut-être que tu pourrais nous dire comment ça se déroule maintenant?
Oui. Ben, premièrement, le food tech en général, on peut le segmenter en deux, surtout au Canada ou même au Québec, parce qu'il y a quelques gros joueurs. Tu as le prêt à cuisiner, tu as le prêt à manger. Le prêt à cuisiner, effectivement, si on voit les nouvelles dernièrement, ça va pas très bien. Il y a beaucoup de challenges. Autant pour une notion de produit, mais une notion de stratégie marketing, on dirait pandémie versus post-pandémie. Pour ce qui est du prêt à manger, c'est tout autre chose. Il y a quelques gros joueurs sur la planète, des compagnies publiques, donc ça permet de voir. Nous, on est le plus gros au Canada et je dirais que ça va très bien. 2023 a été notre plus grosse année historique. 2024, on vise une croissance plus élevée qu'en 2023. Puis, tu sais, ça, c'est pas Jean-Sébastien Louis Cook qui le dit, c'est je mets ma réputation là-dessus. C'est pas juste lancer des chiffres en l'air, là. C'est la vérité. Mais ça vient à avoir vraiment, on est quand même chanceux où est-ce que nous, notre produit est exceptionnel. Les repas sont super bons. Mais en même temps aussi, on établit une bonne base organisationnel, opérationnel et marketing pour que ça aille bien.
Bien sûr. Donc, au final, juste pour qu'on soit clair ici, et tu m'en avais parlé avant le podcast, dans le food tech, là, tu dois avoir des bonnes stratégies marketing. Si ton produit n'est pas bon, ça ne va pas fonctionner, là. C'est une question de produit avant tout, là.
Moi, je vois ça comme 3 piliers. Puis, c'est vraiment pas une industrie qui est facile. 3 piliers, c'est le produit, les opérations et le marketing. Dans notre industrie, si t'es pas dans le top 10% des 3, ça marchera pas. C'est aussi simple que ça. Faut que toutes les planètes s'alignent, puis que t'aies des équipes en place dans les différents départements, across the board, qui créent de la magie, puis c'est aussi simple que ça. Sinon, ça marchera pas.
Et bon, et peut-être je serais curieux maintenant, parce que là, on a parlé COVID, on a parlé après COVID, on a parlé diagnostic quand tu es arrivé dans l'entreprise. Clairement, il y a des régimes différents, des régimes économiques différents qui se sont installés. Est-ce qu'on pourrait dire également des stratégies marketing différentes qui ont dû s'installer avec ces régimes qui changent d'une année à l'autre?
Nous, on n'a pas vraiment changé notre mindset. Parce que ça a toujours été, on teste, mais faut pas se tromper.
Trop souvent.
Ben, exactement. C'est facile de dire, c'est pas grave, on va le tester, on va voir ce que ça... Non. Faut que t'aies raison 9 fois sur 10. Le marketing mix, il change au travers du temps. Il y a des canaux qui performaient, qui performent moins. Il y a des canaux des nouveaux canaux qui apparaissent. Donc, on change l'allocation dans le marketing mix, mais l'approche au marketing n'a pas changé.
Je comprends. Et tu parles de canaux qui changent. Peux-tu nous parler globalement à quoi ressemble votre marketing mix au moment où on se parle et peut-être les joueurs qui se démarquent un peu plus que les autres?
Absolument. On peut le voir sur qu'est-ce qui est plus interne versus qu'est-ce qui est média. À l'interne, comme tout courant, on a une stratégie de courriel SMS assez avancée. On a un programme de référencement qui performe excessivement bien. Non seulement ça, c'est ça que dans les moments où est-ce que le média, dans les dernières années où il y a eu des challenges, ben ça, c'est ton bedrock. Donc, ça va super bien. Sinon, après ça, tu as tout ce qui est média. Nous, on était chanceux avec tout ce qui est arrivé, les challenges de cookies, il y a environ 2 ans avec Meta et potentiellement Google et tout. Nous, on avait tout intégré server-side tracking à l'avance. Donc, on n'a presque pas vu d'impact. Après ça, c'est faut que tu vois ces plateformes-là comme des partenaires. Donc, travailler avec eux pour maximiser le retour. Un des canaux qui, présentement, souffre, que je dirais, c'est tout ce qui est influenceur. Influenceur, en 2019, c'était pêché à la dynamite. 2024, c'est une autre chose. Un, ça convertit moins, mais deux, ça coûte plus cher.
À cause de la sophistication également des équipes de leur côté, là, j'imagine.
Sophistication des équipes et aussi, en 2019, c'était pas toutes les entreprises qui avaient, on dirait, un expert influencer marketing. C'était pas toutes les entreprises qui maximisaient ce canal-là. Maintenant, c'est la norme, mais est-ce que le niveau d'influenceur a bougé? On va aller plus loin que ça. Quand, en 2019, tu avais excessivement de YouTubers, un peu d'Instagrammers. On s'entend, le volume de conversion sur YouTube est beaucoup plus élevé que sur Instagram. Maintenant, t'as à peu près plus de YouTubers. T'as encore du monde sur Instagram, mais ça va beaucoup plus sur TikTok. TikTok, c'est une super bonne plateforme pour avoir beaucoup de vues, mais c'est pas nécessairement la meilleure des plateformes pour convertir.
Non, pas encore. À voir. Donc, de ce que je comprends, on dirait que tu as l'air d'avoir des canaux qui restent très puissants à travers le temps. Il y a peut-être eu des hauts et des bas comme chaque plateforme peut avoir, mais de ce que je comprends, corrige-moi si je me trompe, globalement, les mêmes plateformes continuent à générer des bons résultats, surtout au niveau média à travers le temps, de votre côté.
Absolument. Dans la dernière année, je dirais, ça a été assez stable. Là, présentement, où le nerf de la guerre pour réussir, c'est vraiment le côté asset, le côté branding. Beaucoup d'entreprises ont sous-investi ou en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. Et je pense que pour la prochaine année, prochaine 2 ans, le nerf de la guerre, ça se fera plus nécessairement la structure et tout. Tu sais, on a track the code d'un point de vue optimisation, structure, de données et tout. Mais créer du bon contenu que les gens veulent voir, que les gens engagent avec, c'est encore quelque chose qui reste aventureux.
Bien sûr. Et bien entendu, plus que les plateformes évoluent, plus qu'elles coûtent cher. Donc, si on est capable de bâtir des bonnes bases de données à travers le temps, réactiver nos clients existants, retravailler des gens qui peut-être avaient fait 1 ou 2 transactions il y a quelques années, mais qui nous avaient oubliés depuis, devient encore plus important pour être certain qu'on soit le plus efficace possible dans nos investissements et qu'on soit capable d'augmenter notre retour sur investissement. Bon. Assez intéressant. Tout ça, dis-moi, peut-être pour terminer un peu, j'aurais 2 questions pour toi. La première, qu'est-ce qui vous attend en 2024 au niveau marketing? Quelles sont les nouvelles approches que tu aimerais tester? Est-ce que tu as certains points qui seraient intéressants qu'on pourrait partager avec notre audience pour les aider?
2024, ben, j'en ai déjà parlé un petit peu. Vraiment avancer d'un point de vue contenu, d'un point de vue branding. On est rendu là. Travailler sur nos USP. On dirait au Québec, énormément de gens connaissent WeCook. Un peu moins en dehors, Ontario, Nouveau-Brunswick. Mais on est rendu à faire connaître la marque, mais aussi travailler sur la perception de c'est qui WeCook, c'est quoi WeCook, mais aussi l'émotion dans le brand.
Donc, une grosse partie branding en 2024. Exact. Et si tu avais un conseil, peut-être on termine là-dessus, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont majoritairement, Jean-Sébastien, des propriétaires de boutiques en ligne, des directeurs marketing de boutiques en ligne, des gens qui sont vraiment dans des positions très similaires à la tienne, le conseil que tu leur donnerais basé sur toute l'expérience que tu as été capable d'accumuler autant chez WeCook que dans tes emplois passés, quel serait ce conseil?
Surtout si on parle à des propriétaires d'entreprises. Maintenant, l'information est accessible. Nous, on l'a fait avec WeCook, où est-ce que les fondateurs ont vraiment sauté dedans et ont voulu apprendre, mais d'avoir des propriétaires qui connaissent, qui comprennent au moins le marketing et avoir le minimum viable, ça fait toute une différence. C'est une chose d'engager un head of marketing, mais si tu comprends pas qu'est-ce qu'il fait, ça fait un clash, ça fait un silo.
Bien sûr.
Donc, il y a ça. Et sinon, on en a parlé aussi, mais focusser sur l'EBITDA, focusser sur la profitabilité. Autant c'était presque pas regardé il y a 4 ans. Maintenant, il y a une prime. Ben, maintenant, premièrement, si tu veux lever de l'argent, t'es pas EBITDA positif, bonne chance. Mais il y a même une premium. Les entreprises avec des bons EBITDA ont des ratios des multiplicateurs phénoménaux présentement.
Et c'est incroyable, comme tu l'as dit, à quel point que ça a changé tout ça. Incroyable. Donc, c'est pour dire, beaucoup de choses comme ça sont des cycles et il faut les comprendre. Jean-Sébastien, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été totalement fantastique comme entretien, très technique, très poussé dans le détail, comme je te connais, j'adore ça. Si on veut en apprendre plus sur toi ou sur WeCook, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Ben, WeCook, www.wecookmeals.ca. Sinon, n'importe qui peut me rejoindre sur LinkedIn. Mon profil est facile à trouver. Juste à m'écrire. Sinon, les différentes conférences majoritairement au Québec.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercer.